Quand on se penche sur l'histoire d'Israël, dans la réalité, ce n'est pas très glorieux. Il y a des anecdotes qui font un peu rire. Par exemple, Abraham, notre père, dans la foi, et il avait peur du Pharaon. Alors, quand il lui a demandé sur Sarah, son épouse, il a dit « c'est ma sœur », il n'a pas dit « c'est ma femme ». Parce qu'il avait peur que pour avoir Sarah, on lui tranche la gueule. Un peu plus sérieux, c'est l'affaire de Moïse. Moïse, il a commis un meurtre. Il a vu un Égyptien frapper un Juif. Il est allé en cachette, il a tué, il l'a enterré. Et après, il avait peur que ça se sache. Il y a l'histoire d'Isaac, avec son frère Esaü, d'Israël, Jacob et Esaü. Jacob, poussé par sa mère, il a triché pour avoir les droits d'aînés contre Esaü. C'est l'histoire des lentilles. Plus tard, il y a le roi David qui se prend de la femme du chef de l'armée et qui commet l'adultère, qui fait tuer le chef de l'armée pour garder la femme. Et ainsi de suite. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est l'histoire des hommes. Eh bien, ce peuple, il se reconnaît élu de Dieu et en même temps pécheur. C'est pour ça qu'une fois par an, les Yom Kippour, les jours du grand pardon, ils allaient confesser leurs péchés. Ils se réunissaient, ils voyaient qu'il y avait la violence, qu'il y avait l'adultère. Moïse leur avait dit, on peut finalement se séparer de sa femme plutôt que la tuer. Il y avait des meurtres, des violences, d'injustices, l'escroquerie, tout ça. Et c'était devenu infernal, on ne pouvait pas vivre comme ça. Alors une fois par an, c'était le jour du grand pardon, ils allaient se réunissaient dans la ville, ils confessaient leurs péchés, les grands prêtres mettaient les mains sur un bouc et on confessait les péchés du peuple et on amenait la bête au désert jusqu'à ce qu'elle périsse. C'était une préfiguration, une image de ce qui allait venir, parce qu'évidemment, la confession, c'est une partie de la démarche, mais la mort d'un animal ne peut pas servir, le sang des animaux ne sert pas pour le pardon des péchés. Ça, l'Épître aux Hébreux est très, très clair là-dessus. Mais c'était une image, c'était une préparation, une pédagogie d'une démarche qui allait s'accomplit véritablement quand le véritable agneau de Dieu arriverait sur terre, c'est lui qui va enlever les péchés du monde. Alors l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons dire, c'est facile, il y a deux animaux, et puis il y a un truc sur les dates qui nous fait réfléchir. Les deux animaux, c'est d'abord l'agneau de Dieu. Jésus, quand Jean-Baptiste le voit venir, il dit « c'est l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde ». Or, il faudrait préciser parce qu'il ne se limite pas à ôter les péchés, c'est l'un des sens du mot « enlever », mais il faudrait dire plutôt qu'il les emporte. C'est-à-dire qu'il charge sur lui les péchés du monde. Parce qu'il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de pardon sans que quelqu'un paye la dette. Un pardon où la dette n'est pas assumée par quelqu'un, ce n'est que des mots. C'est une ruse. C'est se tromper à soi-même. Les gens qui disent « je me confesse devant le Seigneur », tout ça. Et nous, on est pardonnés parce que l'agneau de Dieu a porté sur lui la charge de nos péchés. Saint Paul dit « c'est un document qui a été cloué à la croix ». C'est comme un chèque impayé que Jésus prend sur soi et dit « je vais payer ». Et comment il paye? En se livrant dans les mains des hommes pour accueillir la justice de Dieu. Et là, on rentre dans les mystères de la rédemption, c'est certain. L'agneau de Dieu, voilà, Jean-Baptiste signale l'agneau de Dieu parce que notre monde ne peut pas être sauvé sans la rédemption. C'est une illusion et le pape y revient souvent. C'est drôle l'histoire du pape François. C'est drôle parce que on pioche ici et là, c'est que ce que nous plaît, c'est que, en particulier pour les mettre contre ses prédécesseurs. Mais si on lisait les papes, si on les lisait, par exemple, il parle beaucoup du pélagianisme. Beaucoup. Vous mettez sur Google pélagianisme, pape François, c'est plein. C'est quoi le pélagianisme? C'est quand les êtres humains imaginent un salut qui vient de ses propres forces. Quand on imagine que le salut, finalement, c'est un problème d'organisation. Dès qu'on changera les gouvernements, la justice et la paix seront établies dans les pays. On se trompe. On se trompe. C'est la naïveté, la superficialité et c'est le refus de se mettre en cause. Le mal présent dans le monde, comme dans le peuple d'Israël, les meurtres, l'adultère, l'injustice, l'escroquerie, jaillit du cœur de l'homme. Et c'est là qu'intervient le deuxième animal, la colombe. Voilà, voilà l'agneau de Dieu, j'ai vu descendre la colombe, c'est lui qui m'a envoyé. Et là, c'est le troisième volet, avec les dates. Mais d'abord la colombe qui représente l'Esprit Saint qui descend sur Jésus, qui est présenté comme celui qui va baptiser dans l'Esprit. Ça veut dire quoi, baptiser dans l'Esprit? On est baptisé dans l'eau, c'est quoi? Mais c'est un baptême qui va toucher le cœur de l'homme. Jésus est celui qui donne l'Esprit en abondance, c'est lui qui vient amener la grâce de Dieu, qui vient transformer nos cœurs par les dons de son Esprit, par la grâce, et ça s'est produit dès les baptêmes et par tous les sacrements, par tous. Aujourd'hui, on réfléchissait avec quelqu'un, il y a beaucoup, aujourd'hui, les jeunes ne se confirment pas, on ne reçoit plus les... Voilà, on va remettre en route sur la paroisse les sacrements de la confirmation. Tous ces les adultes qui n'ont pas reçu la confirmation, vous pouvez vous avancer. Et il faut recevoir les sacrements par lesquels la plénitude de l'Esprit Saint nous est donnée, avec tous les dons de l'Esprit Saint pour pouvoir en témoigner. Voilà, Jésus est celui qui reçoit la colombe et qui donne l'Esprit. Vous avez remarqué facilement que soit l'agneau, soit la colombe ne sont pas des fauves, ça ne fait pas peur. Dieu va offrir son pardon d'une manière inéquivoque, on peut dire, d'une manière où on ne peut pas se tromper sur ses intentions, on ne peut pas avoir peur de s'en approcher. S'approcher de Dieu... Il l'a mis, voilà, c'est comme s'approcher d'une colombe, d'un agneau. Voilà. Nous, c'est nous les méchants, c'est pas lui. Et quand on lui donne notre cœur, qu'il pardonne, il purifie, il renouvelle la face de la terre. Et puis, il y a les, comme je vous ai dit, il y a les trucs des dates. Parce que Jean-Baptiste dit, c'est lui qui vient derrière moi, il va passer avant moi, parce qu'il est avant moi, il existait. C'est lui qui était derrière, il passe devant parce qu'il était avant. Or, quand on réfléchit, voilà, avant, après, devant, derrière, devant, ça on comprend facilement. Mais pourquoi il dit qu'il était avant lui? Alors que quand on lit l'Évangile, Jean-Baptiste est l'aîné de Jésus. Il est né 6 mois avant Jésus. Comment peut-il dire qu'il existait avant? Eh bien, il est en train de dire, comme il va le dire à la fin, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas anecdotique. Nous, les chrétiens, nous croyons que Dieu est venu dans le monde. Il dit l'homme. Plutôt, en grec, il dit anel, les mâles, les garçons qui vient, qui va passer devant moi. C'est un homme, c'est un être humain de genre masculin. Il ne se faisait pas de problème pour citer les genres à l'époque. Ce garçon qui passe devant moi, il était avant moi, il parle de l'éternité de Jésus, du mystère de l'incarnation. C'est lui qui est mon cousin, on pourrait dire. Il est aussi, c'est lui qui va devenir notre frère, qui va vouloir se faire appeler notre ami. Il est d'abord le Fils de Dieu, le Verbe éternel, qui a pris chair de la Vierge Marie. Et qui, deux fois, dit Jean-Baptiste, je ne le connaissais pas, je ne le connaissais pas. Puissions-nous le connaître? Arrêter les clichés, arrêter les répétitions, entrer dans le silence, écouter la parole et demander la grâce de connaître profondément le Fils de Dieu.